Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette seconde analyse de patrimoine. On se retrouve aujourd'hui avec Valentin, puisque Marc est en vacances actuellement, donc on le retrouvera normalement à compter de la troisième semaine de septembre et pour cette analyse hebdomadaire donc de patrimoine. Et aujourd'hui, Valentin, on se retrouve avec un profil un peu particulier, puisque quand on a décortiqué tout ça, on a un aficionados du farming, des protocoles de DeFi, et quelqu'un qui a l'air, en tout cas, quand on regarde comme ça son patrimoine, premièrement d'avoir beaucoup de volatilité sur le portefeuille et deuxièmement d'avoir en effet arpenté quasiment tout l'écosystème crypto, donc un crypto natif, j'ai l'impression.
Ouais, tout à fait, pas mal de protocoles sur lesquels il s'est positionné, puis on va pouvoir regarder ça dans le détail. Et une grosse position crypto, donc on va pouvoir analyser tout ça effectivement.
Donc sans plus tarder, on voit qu'aujourd'hui, quand on prend l'intégralité de ce patrimoine, on a une plus ou moins value de moins 148 000 euros, mais c'est directement lié au fait qu'à un moment donné, notamment en mai 2025, ce patrimoine cumulé à hauteur de 405 000 euros et ici 416 000 même en décembre 2024. Donc on a eu deux énormes pics qui derrière, a priori, ont été soit cash out, soit, voilà, on va le voir dans un instant, pour des besoins notamment de patrimoine et d'avancer petit à petit pour des placements différents. Donc pour vous donner le background de cette personne aujourd'hui, de notre analyse, c'est une personne qui a 30 ans, qui se projette sur la préparation de sa retraite, un achat immobilier et avoir des revenus passifs à terme avec, il nous met en dernier recours, une croissance agressive. Il vise en termes de durée 6 mois à 2 ans pour le court terme et 10 ans et plus pour le long terme, bien entendu. Il souhaite se dégager un revenu net de 28 000 euros par an minimum d'ici 16 ans, notamment pour payer les études de son fils sans impacter directement son train de vie financier et peu importe son choix de carrière, ça c'est très important. Il nous précise qu'il prend en considération une inflation à 2% annuel, ce qui correspond à 20K euros par an actuellement. Objectif à 30 ans d'ici la retraite, donc 30 plus 30, son âge actuel, peut-être même un peu plus, puisque si tu es en France, ben la retraite aujourd'hui, c'est rare de pouvoir partir à 60 ans. Et donc, prenons en compte l'inflation de 6 300 euros mensuels de revenus nets par mois, cela correspond à 3 500 euros mensuels aujourd'hui. Donc, son but à la fin, c'est de dégager du cash en crypto pour pouvoir alimenter le PEA au maximum d'ici à mi-2026 et pour atteindre rapidement le plafond pour la partie études pour sa progéniture, comme il le dit. Il a investi ou il souhaite investir principalement dans le MSCI World. Donc ça, on va voir s'il n'y a pas des ajustements à faire et notamment ce que tu nous disais, Valentin, la dernière fois avec une répartition qui peut être aussi modelée en ce moment vis-à-vis de l'Asie et ensuite poursuivre la crypto en bon père de famille sur les gros dossiers après ce cycle. Donc, je me demande en fait, en guise d'introduction, si le mouvement de, on va dire, vase communicant n'a pas déjà été fait. Et pourtant, je n'ai pas la sensation, quand on regarde actions et fonds aujourd'hui, il y a à peine 4300 euros. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça, mais en ayant potentiellement un passage où on est passé de 400 000 euros à autour de 200 000 aujourd'hui. Donc, on a un creux comme ça dans ce patrimoine de 200 000 où on ne sait pas forcément où est passé cet argent.
Si tu regardes le graphique, en fait, tu vois que tu as un énorme dump là, qui commence à partir de mi-décembre, ce qui correspond à peu près à l'investiture de Trump et qu'on a une descente en enfer jusqu'au mois d'avril. Et donc là, si j'en crois ce graphique, on était à environ 400 000 euros et notre ami du jour, voilà, donc on était à 415 000 et si tu descends jusqu'au mois d'avril, je pense qu'on n'est pas loin des 200 000, 150 000 même. Donc, est-ce que notre ami du jour a fait un cash out ou est-ce qu'il s'est pris une claque monumentale sur son portefeuille crypto qui pèse 91% du patrimoine? J'opterais plutôt pour la seconde option. Je pense que le spike qu'on voit ici, c'est juste une erreur de graphique avec peut-être une entrée-sortie où il a fait une erreur. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, effectivement, la stratégie de vouloir faire du vase communicant entre les cryptos et le PEA est une bonne idée sur le papier. Par contre, c'est une idée que mes clients, moi, me remontent beaucoup au sein du cabinet et il y en a très, très peu qui savent le faire réellement. Et là, notre ami, en fait, aurait dû le faire au mois de décembre. Donc, que s'est-il passé entre le mois de décembre et le mois de mai pour qu'il se prenne une claque comme ça et qu'il ne coupe pas cette descente aux enfers qu'on peut voir ici, je ne sais pas. Mais le fait de venir nous dire aujourd'hui, potentiellement, je vais attendre mi-2026 pour prendre mes profits, etc., et rebasculer sur le PEA. Moi, quand je vois un graphique comme ça, je me demande s'il sera vraiment capable de le faire. Et donc là, on en revient aux fondamentaux dont on parlait la dernière fois, à savoir être capable de prendre ses profits et ne pas se laisser berner par ses biais psychologiques, tout simplement.
Et donc, comme tu viens de le dire à l'instant, 91% en crypto. Donc, pour l'instant, dans tous les cas, on a un patrimoine qui est fortement concentré et on a quatre grands wallets Ethereum qui sont connectés donc à cette interface de Finari. Et c'est sur la première, au final, où on a eu un drawdown des plus importants, moins 52%, moins 144 000 euros. Et quand on regarde dans ce dernier, qu'on creuse un petit peu, eh bien, on a un aficionados de la DeFi, puisqu'on a absolument tous les protocoles qui sont listés ici. On a quelqu'un qui a énormément arpenté de chemin, qui a dû tester énormément de choses. Et à ce jour, ben, par exemple, sur Aerodrome Finance, il a 64 312 tokens Aero pour 59 000 euros. Il a 20 000 euros de AAV avec 109 tokens AAV. Donc on est sur quelqu'un qui potentiellement fait beaucoup de DeFi. Et comme tu le disais à l'instant, la descente longue et pénible en mode agonie du wallet depuis décembre 2024 semble statuer sur le fait que peut-être dans un premier temps, on a une personne qui s'est laissée un peu glisser, en effet, avec le marché à compter de décembre de l'année dernière.
Ouais, moi, tel que je le vois, là, le portefeuille, en fait, tu vois, on va avoir des grosses pertes, par exemple, sur Paladin. On a aussi, là, si tu scrolles un petit peu, une ligne à moins 16 000 euros. Donc, on a moins 21 000 sur Paladin. Moins 16 000, c'est quoi? C'est
C'est
Maverick
Maverick.
Protocol. Est-ce que ces tokens-là, finalement, il les a pas achetés au plus haut, il les a mis en stacking et il s'est dit, je vais récupérer du rendement? Et au final, avec la chute du prix des tokens, il s'est pris en fait une énorme claque. Moi, je partirais plutôt sur ce scénario-là. Et donc là, on en revient un petit peu à de la gestion du risque et encore une fois aux fondamentaux. C'est pas parce que vous avez un rendement annuel de 15% sur une altcoin que vous pouvez pas vous manger des pertes. Là, il est à quoi? À moins 80%. Donc attention aussi à ce biais-là de pas tout miser sur le rendement. Si l'évolution du prix de l'actif est pas bon, vous allez vous retrouver en perte méchamment. Donc c'est important aussi de savoir couper à un moment donné. Là, sur ce portefeuille, on a évidemment beaucoup trop de lignes. On a énormément de lignes avec des petits montants. On a des 200 euros, 100 euros, quelques euros, etc. Tout ça, il faut faire le ménage. Alors je comprends qu'on aille tester les protocoles, etc. À un moment donné, il faut savoir faire le ménage aussi pour repartir du bon pied. Et c'est d'autant plus important que notre ami nous a dit qu'il voulait potentiellement rebasculer sur du PEA. Mais il faut qu'il s'entraîne en fait à rebasculer sur le PEA. C'est un petit peu comme un muscle que vous entraînez, le muscle de l'achat, mais aussi le muscle de la vente et de la sécurisation. Et là aujourd'hui, s'il veut nous montrer réellement qu'il a envie de faire ce basculement, il faut absolument qu'il fasse un nettoyage très rapide de son wallet et qu'il revienne aux fondamentaux et qu'il commence à sécuriser ses profits pour potentiellement rebasculer vers des investissements plus traditionnels. Et aujourd'hui, je vois que malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas fait.
Tout à fait d'accord avec toi. On a un deuxième wallet sur lequel il n'y a quasiment plus rien. Et pareil, un peu de paladin à hauteur de 3 400 euros en moins-value de moins 22%. Et là, par contre, on n'a qu'une dizaine de lignes avec du Jarvis, du Spectra, un peu de Ethereum, du Polygon. Mais pareil, c'est plus un portefeuille peut-être qui a servi notamment à farmer. Et le plus gros du portefeuille, dans tous les cas, se trouve sur la première ligne. Une troisième ligne Ethereum, donc c'est quatre portefeuilles différents avec du curve DAO token qui est en positif de 130%. Là, pour le coup, notre analyse est rentrée au bon endroit, bon moment. 4 500 tokens de curve et de nouveau des petites lignes, Mont Pèlerin, Ethereum, du Coinbase Wrapped Stake ETH, donc CB ETH. Pareil, est-ce que à ce jour, on a besoin d'avoir fondamentalement de tout et n'importe quoi en Ether staked? Je pense que c'est un peu comme si on avait cinq lignes différentes, tu vois, de MSI World ou des trucs comme ça. Il va falloir un peu se reconcentrer. Et comme tu le disais à l'instant, il y a des très bons outils. Alors, je ne veux pas dire de tête comme ça quelque chose de faux, mais je crois qu'il y a Small Refuel et quelque chose qui finit en XYZ qui vous permet de concentrer toutes vos poussières en un seul endroit pour les convertir justement à la volée en ce que vous souhaitez, hein, que ça soit de l'Ether ou du stake Ether ou peu importe. Donc ça pourrait permettre notamment à notre ami du jour eh bien, de faire une curation ultra profonde de ces dizaines voire centaines de lignes si on prend le premier wallet et de revenir à quelque chose où il n'a plus que 2, 3, 4, 5 lignes à surveiller. Donc ça déjà, ça permettrait de faire un bon tri. Après, je suppose qu'au vu de la multitude de projets qui ont été utilisés ici, ça va quand même être difficile de faire absolument toutes les poussières, mais ça permettrait, ou alors de partir sur un portefeuille tout neuf et bien propre, d'avoir quelque chose de beaucoup plus clean.
Moi, il y a quand même quelque chose qui me choque beaucoup dans ces portefeuilles, c'est où est Bitcoin ? Je n'ai pas vu de Bitcoin depuis le début.
C'est vrai.
Et là, on est, encore une fois, on est sur de la base, parce qu'effectivement, alors, tu as bien souligné qu'il avait une belle performance sur CurveDAO. Il est à plus de 130%, mais il se fait quand même surperformer par Bitcoin. Donc là, on a quand même un double effet qui est l'effet, premier effet, multiplication des lignes, donc dilution de la performance. Et là, on est sur une dilution qui est quand même assez stratosphérique. Et deuxièmement, les fondamentaux ne sont pas là puisque Bitcoin n'est pas présent dans le portefeuille. Et moi, aujourd'hui, je ne peux pas voir un portefeuille qui ne contient pas de Bitcoin. Bitcoin qui, je le rappelle, sur un cycle, surperforme 95% des altcoins. Et si on monte sur deux cycles, on est sur du 98%. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous passer de Bitcoin dans vos portefeuilles.
Et c'est là où on voit que c'est quelqu'un vraiment qui a pris à bras-le-corps le côté DeFi et qui très certainement est rentré par cette porte-là. Hein. Ethereum, le farming, les protocoles. Et on a en guise de quatrième adresse, donc une adresse qui sert quasi exclusivement, je pense, à tout ce qui se passe sur Realty avec du XDAI, de l'USDC, les Realty Token Gouvernance et ensuite pas mal de tokens qui sont liés à des propriétés. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui sont passés au travers sur les réseaux sociaux, il y a quelques problèmes en ce moment avec Realty, notamment avec Détroit, la ville dans laquelle ils ont beaucoup de biens et ils ont suspendu une partie des loyers. Donc, tant que tout ça est en cours, bien entendu, on ne peut que vous recommander de faire attention et en règle générale, dans tous les cas, à partir du moment où on a des rendements qui sont intéressants, du côté de Realty, ça va de 8 à 10, voire 13% au début, il y avait. Donc, on est plutôt aujourd'hui entre 8 et 10. Eh bien, on va avoir le risque, dans tous les cas, de contrat, de smart contract. On va avoir le risque lié à l'immobilier, à la gestion locative sur place et à bon nombre d'autres choses juridiques, etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel est ton avis, toi, Valentin, mais ça représente quand même un poids qui peut être pour l'utilisateur final est quand même assez important au vu du rendement associé.
Bah, la problématique de Realty, c'est que sur le papier, c'est une belle promesse puisque on peut accéder à de l'immobilier tokenisé à partir de quelques dizaines de dollars et de façon décentralisée. Et on a quand même une certaine liquidité sur les tokens, il faut le dire, au travers notamment du YAM de Realty qui, pour le coup, fonctionne plutôt bien pour l'avoir testé personnellement. Je dirais que la grosse problématique de Realty aujourd'hui, c'est qu'on va venir rajouter un risque purement lié à la blockchain, en plus des risques qu'on a sur l'immobilier traditionnel, à savoir les squats, les impayés, les problèmes réglementaires, la fiscalité, etc., etc. Donc, ça fait potentiellement une surcouche de problèmes supplémentaires pour un rendement supplémentaire qui n'est pas forcément si intéressant que ça, puisque aujourd'hui, sur des SCPI internationales qui vont détenir de l'immobilier en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, etc., et qui, pour le coup, sont des produits très régulés, donc beaucoup plus encadrés que ce que peuvent être des protocoles crypto tokenisés, on est déjà sur ce type de rendement-là. Aujourd'hui, on a des SCPI qui ont connu des années 2024 exceptionnelles où on est monté à du 8-10% de rendement. Il y a des SCPI qui se sont cassés la figure aussi, mais les SCPI qui se sont cassés la figure, c'est ce qu'on appelle des SCPI spécialisés. Donc, par exemple, une SCPI qui va faire uniquement du bureau en Île-de-France, ça, effectivement, ça s'est cassé la figure. Mais sur du très diversifié, donc des SCPI à l'international qui font différentes typologies de biens immobiliers, donc de la santé, de l'infrastructure, ce que vous voulez, on est déjà sur ce type de rendement, aux alentours de 8-10%, tout du moins pour l'année 2024, et c'est évidemment des rendements non garantis, hein, je le rappelle. Donc, pourquoi aller se rajouter en fait le risque purement lié à la blockchain et au Web3, donc des risques de protocole, des risques de smart contract, etc., pour un rendement quasiment similaire? Moi, aujourd'hui, je vois pas trop l'intérêt. Je dirais que la vraie plus-value de Realty, pour le coup, c'est la liquidité des assets. Et après, effectivement, donc il y a ces fameux problèmes. Alors, je n'ai pas trop suivi, hein, pour être tout à fait honnête, à Détroit. J'ai vu qu'il y avait des loyers, je crois, qui sont mis sous séquestre pour des problèmes de rénovation ou je ne sais pas quoi. Et donc là, c'est une affaire juridique et il faut être patient et voir comment tout ça va se terminer.
Yes, donc je suis assez aligné avec toi. Et pour ceux qui sont là depuis longtemps pour Realty, donc qui ont déjà touché au bout de quelques années, on va dire, allez, 50% de la valeur totale du token au travers des loyers, n'oubliez pas aussi que vous avez basé sur AVV3, donc c'est le fameux RMM, la possibilité de déposer vos tokens de Realty et d'emprunter à hauteur de 50% de ce qu'ils représentent. Donc, admettons que vous êtes là depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans et que vous ayez déjà récupéré un bon 50% de la valeur des tokens au travers des loyers. Vous avez la possibilité aussi de vous dérisquer immédiatement en déposant les tokens et en empruntant de l'USDC, hein, sur XDAI, que vous pouvez ensuite convertir et placer où vous souhaitez, ce qui peut être un moindre mal, entre guillemets, au vu de la situation, si vous croyez toujours en Realty et que vous pensez donc que vous passerez au travers. La seconde solution, comme vient de le dire Valentin, serait de ventiler les tokens du côté du YAM, qui est un échange de pair à pair sur lequel les particuliers se retrouvent pour échanger leurs tokens. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème justement d'entrée-sortie de ce côté-là. Donc pour l'instant, ça a l'air d'aller.
Je préciserai un dernier point sur cette partie-là. Je vois aussi beaucoup d'investisseurs qui me disent, j'en ai dans le cabinet, hein, qui me disent, moi, je sécurise des profits en USDC et je les réinjecte sur de l'immobilier tokenisé. Le problème de faire ça, en fait, c'est que vous diversifiez pas du tout parce que vous croyez que vous allez vers de l'immobilier, mais finalement, vous allez vers de la crypto-monnaie qui est adossée à de l'immobilier. Et donc, vous restez, in fine, dans le secteur des crypto-monnaies avec tous les risques que cela implique. Donc, si vous voulez vraiment diversifier, il faut que vous sortiez du secteur des cryptos et que vous fassiez autre chose. Et donc, ça implique un cash out en fiat pour pouvoir réinvestir les fiat derrière et donc potentiellement une flat tax si vous avez des plus-values. Mais attention à cette notion de fausse diversification si vous restez dans la crypto, même si vous faites du tokenisé. Je ne vais pas parler que de Realty, on peut parler d'or tokenisé, on peut parler, j'ai vu qu'il y avait des chevaux aussi tokenisés ou des montres tokenisées, des choses comme ça. Ça reste de la crypto, hein.
Tout à fait d'accord avec toi. Donc, il n'y a pas de rendement sans risque. Et dans la crypto, des fois, le risque n'en vaut pas toujours la chandelle. Il faut bien étudier tout ça au cas par cas. On en passe au livret avec 10 500 euros sur un livret A qui, pareil, a pas mal pris un shoot depuis décembre, même mi-2024, où il était à 19 000 euros. Donc, au vu du patrimoine de notre abonné, je suppose qu'avoir à ce jour 10 000 euros sur le livret A, ce n'est pas du luxe en termes d'économie de précaution. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que tu seras assez d'accord avec ça.
Bah, d'autant plus qu'il nous a dit qu'il avait un enfant, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je suppose qu'il est marié. Donc, je suppose qu'ils sont trois dans le foyer. Effectivement, 10 500 euros pour trois personnes, pour une épargne de précaution, ça ne me choque absolument pas. On a peut-être une diminution de l'épargne de précaution, là à peu près 9 000 euros de ce que je peux voir. Peut-être que ça a été réinjecté dans la partie actions et fonds, peut-être que ça a été injecté dans la partie autres actifs, théoriquement. Et là, cette courbe, par contre, moi, ne me plaît pas en tant que telle, parce qu'une épargne de précaution n'est pas censée diminuer. Un livret A n'est pas censé diminuer. Il est censé rester stable et tout le temps le même, sauf s'il y a une évolution dans votre budget. Et les seuls creux éventuels qu'on peut voir dans un livret, en tout cas pour une épargne de précaution, c'est si vous avez un aléa de la vie. Et donc dans ce cas-là, s'il y a un creux à un moment donné dans le livret A, il faut voir une remontée aussi pour recombler le creux et revenir à votre niveau d'épargne de précaution souhaité. Mais là, une épargne de précaution qui diminue dans le temps comme ça veut vouloir dire deux choses. Soit il avait trop d'épargne de précaution au départ et donc il a rebalancé en fait son épargne de précaution. Soit il utilise son épargne de précaution, je ne sais pas trop comment, mais en tout cas, une courbe descendante comme ça sur un livret A, ça ne me plaît pas trop.
Peut-être qu'il pourra nous préciser dans un autre poste, bah justement, ce qui se passe vis-à-vis de cette situation en particulier. On en vient à actions et fonds. Et là, par contre, d'après l'analyse automatisée de Finari, c'est bel et bien optimisé, quand bien même il n'y a que pour l'instant 4300 euros en positif de 9%, j'allais dire 9000, mais on en est loin. On a donc un plan d'épargne en action du côté de Boursault avec un World sur le MSCI, donc avec 338 euros dessus et 12% de performance positive. On a le PEA Monde MSCI World de nouveau, ça c'est un peu la double ligne, j'ai l'impression. Plutôt que d'avoir deux lignes, déjà, ça va pouvoir être mergé, regroupé.
Ouais, si je peux me permettre là-dessus, en fait, je pense que ce qui s'est passé ici, c'est qu'il a commencé à investir sur le Amundi PEA Monde et qu'il a basculé sur le iShares MSCI World Swap PEA qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui propose un niveau de frais plus faible. Donc, en fait, plutôt que d'arbitrer et de se manger un frais de transaction parce qu'il a arbitré, il a simplement, je pense, réinjecté son argent frais, son cash frais dans le nouvel ETF de chez iShares qui, effectivement, en termes de frais de gestion, est un petit peu moins cher. De tête, je crois qu'il est à 0,2 et le Amundi PEA Monde, donc ça doit être le CW8 de chez Amundi, est à 0,3, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il est allé gratter un bout de chandelle. À mon avis, c'est ce qui s'est passé. Il est allé gratter un bout de chandelle comme ça.
Ouais, il y avait aussi à un moment, je crois, la possibilité d'investir sur un des deux à hauteur de temps par semaine ou par mois. Enfin, il n'y avait pas de blocage du côté de Boursault au début et maintenant, je crois qu'il faut mettre un ordre minimum de 500 euros. Il y a quelque chose dans ces eaux-là. Donc, je sais aussi que Boursault, la plupart du temps, ils ont des partenariats avec certaines grandes marques, justement, que ce soit Amundi ou iShares, et ils mettent le petit 0% de frais au moment du passage d'ordre. Donc, peut-être aussi que ça peut pousser nos investisseurs dans un sens ou dans l'autre. On a une dernière petite ligne avec Total Energy qui pour l'instant est à 210 euros et plus ou moins à l'équilibre, donc pas plus de ce côté-là, si ce n'est que en effet, s'il compte petit à petit abonder justement sur un World, la dernière fois tu nous disais Valentin que peut-être c'était intéressant à voir déjà si on a eu une performance comme tu le disais qui est déjà passée hein, pour l'Asie et qui pourrait peut-être continuer, mais de ne pas être exposé exclusivement que sur un monde qui lui-même est exposé comme on le voit à 68% sur les États-Unis. Donc est-ce que au vu justement des finances de notre abonné, tu penses qu'aujourd'hui, il vaut mieux dans un premier temps qu'il continue sur les lignes comme ça du World et que petit à petit, il mette un petit pourcentage sur l'Asie éventuellement?
Pour moi, son premier objectif, c'est clairement de rééquilibrer son patrimoine parce que la crypto pèse beaucoup trop lourd. Mais bon, là, je dis des généralités. Mais pour moi, son focus numéro un, ça devrait être ça plutôt que d'aller me gratter 0,1% de frais de gestion en me multipliant les ETF. Deuxième point, pourquoi mettre du Total Energy dans son PEA, leur Total Energy, l'action préférée des Français, qui verse un dividende, etc. Quel intérêt d'avoir du Total Energy, sachant que le CAC 40 est déjà dans le MSCI World et donc que Total Energy est déjà dans l'ETF MSCI World. Donc là, ça lui fait un overlap. Donc pour moi, ce stock picking n'a rien à faire dans le PEA. Et ensuite, effectivement, le problème que vous allez rencontrer sur le MSCI World, c'est que vous allez être dépendant à 100% de la pondération de l'actif et donc des capitalisations. Et en fait, si vous avez une surreprésentation des capitalisations américaines dans l'ETF, vous allez subir finalement cette surreprésentation. Alors qu'en ayant trois ETF différents, donc S&P 500, MSCI Europe, MSCI Emerging Asia, vous allez déjà pouvoir piloter cette pondération parce que rien ne dit que les États-Unis vont continuer sur cette lancée et que l'Asie ne va pas prendre le relais. Donc, si vous voulez, vous pouvez très bien vous dire aujourd'hui, les États-Unis représentent 70% du monde, mais moi, je vais peut-être vouloir descendre à 60% pour mettre un peu plus sur l'Asie. C'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous avez trois ETF, mais que vous ne pouvez pas faire quand vous n'avez qu'un ETF monde. Et le deuxième problème de l'ETF monde, c'est qu'il ne contient pas d'Asie, sauf le Japon, évidemment. Comme on peut le voir sur le graphique, on va avoir des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, du Canada, mais vous n'aurez pas d'Asie. Donc, attention avec les MSCI World. Soit vous faites, pour des raisons de simplicité, du MSCI World que vous venez compléter avec un ETF Asie, tout en sachant que vous n'aurez pas la main sur la pondération. Et donc ça peut être un choix de votre part d'être 100% passif là-dessus et c'est OK, mais il faut l'avoir à l'esprit. Soit il faut avoir trois ETF différents pour pouvoir jouer sur la pondération. Dans tous les cas, moi aujourd'hui, ça me semble absolument indispensable de venir compléter un ETF monde avec le continent asiatique qui aujourd'hui est en plein développement et qui a pris d'excellentes performances depuis plus d'un an.
Tout à fait clair. Et en guise de toute dernière ligne hors plan épargne-action, on a une assurance vie qui a été souscrite apparemment chez Finari, d'après ce qu'on voit. Et c'est le iShares Growth Portfolio UCITS ETF Euro. Donc pour l'instant, en positif de plus 3%. Mais là aussi, voilà, on a 307 euros dessus. Donc pas grand-chose. Et on a un compte-titres également chez Crédit Agricole avec 15 euros dessus qui sont des parts, potentiellement peut-être des parts d'entreprise. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Alors, ça, c'est son conseiller bancaire qui lui a vendu ça probablement contre une réduction des frais sur sa carte bleue, par exemple. Non, ça, c'est de la saloperie. En fait, ce sont des parts sociales des banques. Et donc, si vous voulez, quand vous cherchez un crédit immobilier ou que vous ouvrez un compte bancaire, etc., généralement, les banques essayent de vous refourguer leur part sociale et puis elles vous, en échange d'une réduction sur des tarifs de cartes bleues qui sont de toute façon trop chers, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des cartes bleues Gold pour 0 euros. Donc ça n'a strictement aucun intérêt, d'autant plus que ça ne rapporte absolument rien, puisque alors moi, personnellement, j'ai un crédit chez la Caisse d'Épargne, ils m'ont refourgué leur part sociale que j'ai dû garder pendant un an et je me suis dépêché de les revendre, parce que ça me rapportait peut-être 0,5% par an, quelque chose comme ça. Donc c'était absolument inutile. Donc voilà, là je pense qu'il a fait plaisir à son banquier, mais ça n'a absolument aucun intérêt. Et s'il peut, c'est pareil, ce serait une ligne à dégager pour simplifier le patrimoine.
Très clair. Et on peut passer donc à la suite, puisque, bah, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, dans tous les cas, on a un patrimoine aujourd'hui qui est fortement concentré en crypto. On a deux actifs exotiques et c'est plutôt intéressant. C'est la première fois qu'on voit ça. Bon, en même temps, c'est que la deuxième émission. Mais on a deux montres. Donc une Longines Flagship Héritage qu'il a payé 1500, peut-être 1400 euros et qui est en positif de 163 euros. Et une Tissot PRX Powermatic qu'il a payé un petit peu plus de 600-700 euros et qui aujourd'hui accuse une moins-value de moins 24%. Donc 2000 euros dans deux petites montres. Là aussi, on ne va pas dire à notre abonné qu'il fait mal les choses. Et c'est aussi la beauté de Finari, je pense, de pouvoir introduire dans son patrimoine des actifs comme ça, tels que les montres ou les voitures ou peu importe.
Oui, s'il aime bien les montres, il n'y a aucun problème. Ce type d'achat, en fait, il ne faut pas vraiment les voir comme des investissements, il faut plus les voir comme des achats plaisir. Si vous faites une plus-value, tant mieux pour vous, mais ce n'est pas réellement l'objectif. Alors, je sais qu'il y a pas mal de spéculations sur les Rolex, etc. Mais quand vous achetez une montre, partez du principe que vous n'allez pas récupérer votre argent et achetez une montre qui vous fait plaisir et que vous aurez plaisir à porter. C'est le plus important.
Tout à fait d'accord avec toi, voire à transmettre, puisqu'il y a quand même bah, pas mal de gens qui voient ça pour une optique un peu générationnelle, d'un point de vue, on va dire, patrimonial et sentimental quelque part. Et on clôture avec trois comptes bancaires, donc courants. Et là, pour le coup, ben, c'est un bon élève, puisqu'il ne laisse pas grand-chose sur ses comptes courants, a priori. On a 639 euros sur le CA. Un deuxième compte courant avec la même somme, je pense que c'est une doublette et que c'est le même compte au final, et zéro pour l'instant sur BoursoBank. Et là aussi, on a beaucoup de yo-yo avec des entrées mensuelles qui se font souvent autour de 1500 à 2200, 2500 euros, et ça retombe tout aussi sec. Donc je suppose qu'au-delà des dépenses courantes dont a besoin notre ami, il réinvestit systématiquement l'excédent en ne laissant que très peu sur le compte courant. Là, c'est un point positif.
Tout à fait, cette courbe est très saine, hein, parce qu'on voit qu'il a ses rentrées d'argent régulièrement tous les mois et que cet argent sort du compte, soit via les dépenses, soit via les investissements. Donc à partir de là, c'est une bonne gestion du compte courant et un compte courant devrait systématiquement être géré comme ça, et vous ne devez pas laisser plus que ce dont vous avez besoin pour le mois au cours sur le compte courant.
Donc, si l'on reprend la synthèse avec des fluctuations qui ont été assez monstres pour ce patrimoine qui, en décembre 2024, était autour de 416 000 euros. On a eu une réciproque 415 000 en mai, mais qui est repartie tout aussi sec. Donc, on se basera plutôt sur ce qui s'est déroulé entre décembre et le point ici d'avril 2025, où il est descendu à 154 000 euros. Donc, on était quand même sur un delta de moins 300 et quelques, enfin, moins 250 à minima, entre moins 250 et moins 300, et des fluctuations qui, quand on observe le marché crypto, en effet, nous démontrent que quand on ne prend pas ses profits, le marché a tendance à absolument tout nous reprendre. Et comme tu le disais, Valentin, c'est quand bien même on a un profil fortement orienté Ether et DeFi, c'est un peu dommage aujourd'hui de ne pas bétonner ce patrimoine crypto en ayant une base solide en Bitcoin. Et je te laisserai bien entendu le mot de la fin.
Ouais, tout à fait, bah, complètement d'accord. Aujourd'hui, le grand absent de ce patrimoine, c'est Bitcoin. Pour moi, c'est pas concevable de faire de la crypto et de ne pas avoir de BTC dans le portefeuille en proportion importante, évidemment. Je pense qu'il sous-performe là assez largement le Bitcoin. Je pense qu'il aurait dû prendre ses profits. Je vous le rappelle, hein, c'est pendant les phases d'euphorie qu'il faut prendre ses profits. On a eu pas mal d'alertes. On a eu le token de Trump. On a eu pas mal de FOMO sur les réseaux, etc. Dans ces phases-là, il faut vraiment que vous soyez solide psychologiquement et que vous soyez en mesure de revendre. Je ne dis pas de tout revendre, mais il faut savoir s'entraîner à revendre des petites parties, avoir un plan en avance, etc. Et à un moment donné, savoir sécuriser ses profits. Aujourd'hui, la personne dont on analyse le patrimoine a quand même un objectif de réorientation des capitaux vers des investissements plus traditionnels. Mais dans les faits, il nous montre qu'il n'a pas été capable de le faire. Donc, j'espère sincèrement qu'il va être capable de le faire potentiellement sur les prochaines phases haussières, mais peut-être déjà aujourd'hui, parce qu'il a des plus-values sur des cryptos, il a des moins-values sur d'autres. Et donc, à un moment donné, il va peut-être falloir accepter de prendre ses moins-values, de prendre une partie de ses plus-values et d'exécuter la suite du plan, parce que sinon, s'il reste marié avec ses bagues, il est possible qu'il n'avance pas. Donc, important de se remettre en question et aussi, à un moment donné, de mettre son ego de côté et savoir prendre ses pertes potentiellement, se dire qu'on s'est trompé et avancer sur la suite et le reste du plan.
Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, ce patrimoine représente approximativement 200 000 euros après être monté à plus de 400 000, mais que si jamais les positions restaient telles qu'elles le sont aujourd'hui, qu'on venait à avoir un automne fin d'année un peu plus positif, qu'on remonte sur 300 000, 400 000 ou que sais-je, et derrière qu'on vienne à avoir un bear market comme on les a connus très régulièrement dans le marché crypto, c'est un patrimoine qui de nouveau peut le fluctuer, monter à 300 000, 400 000, redescendre à 100 000. Enfin, on peut vraiment avoir des chiffres qui seront assez aberrants. Donc vraiment, le but aujourd'hui, c'est de prendre conscience de ça et d'avoir une répartition qui sera la plus honnête possible pour traverser justement les prochaines tempêtes et traverser les temps, puisque on est sur un profil, rappelons-le, qui a 30 ans. Donc c'est déjà bien d'avoir 200 000 euros à 30 ans et le but d'ici justement la retraite et la soixantaine de devenir petit à petit, peut-être pas rentier, mais à minima de se construire de quoi faire pour les études des enfants et pour une retraite future sereine. Merci Valentin pour tes lumières et pour cette seconde analyse de patrimoine. On se retrouvera peut-être la semaine prochaine avec le retour de Marc, mais ça devrait plutôt intervenir la semaine encore d'après. Dans tous les cas, n'hésitez pas, vous avez le lien en commentaire et description pour vous inscrire aux analyses de patrimoine et vous pouvez retrouver Valentin, que ce soit du côté de X ou sur sa plateforme dédiée d'investissement, enfin de conseil en investissement qui s'appelle Wellsim. Donc n'hésitez pas à aller le consulter si toutefois vous avez un besoin qui peut justement dérouler sur un conseil personnalisé et la possibilité donc d'avoir un patrimoine comme ça qui petit à petit sera bien plus construit que ce crypto natif aujourd'hui. On est tous passés par là qui petit à petit est en train de prendre conscience qu'il y a besoin en effet de faire un peu du rétropédalage et d'avoir quelque chose d'un peu plus stable et d'un peu plus solide au long terme. Merci Valentin, c'était top. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine analyse de patrimoine. Salut.
Merci à tous. Salut.